La montée de la haine anti-trans et anti-queer n'est pas limitée en Occident, donc pas en Amérique du Nord seulement ou en Europe, mais c'est partout sur la planète, dont le continent africain. Là-bas, le discours haineux a infiltré même les gouvernements. On parle depuis quelques années de l'Ouganda, du Kenya, entre autres, où des lois très sévères ont été adoptées. On parle d'emprisonnement, voire même de peine de mort dans certains endroits. Et pour discuter de tout ça, je rejoins à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Carlos Edibouo, qui est défenseur de la liberté, de l'équité et de l'inclusion des EI, des droits de la personne, du VIH, SIDA et de la santé sexuelle. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Carlos.
Bonjour, Denis Martin.
Peux-tu nous donner un espèce de portrait de la situation? Je sais que le continent africain, c'est grand, il y a beaucoup, beaucoup de pays, mais en général, qu'est-ce qu'on peut dire? Commençons, est-ce qu'il y a des endroits où ça va bien? La Côte d'Ivoire, ça va bien?
Vu la situation ou l'évolution des choses ces dernières années, le qualificatif « bien » devient questionnable ou
d'accord.
Problématique, faut
problématique,
dire.
Oui, OK.
Dans le sens où, pendant longtemps, la Côte d'Ivoire était perçue comme un oasis de paix et d'amour de façon générale, et plus spécifiquement pour les personnes issues des communautés queer, dans le sens où, quand on regardait dans la sous-région et même au niveau de l'Afrique de façon générale, il y avait cette paix, cette expression d'amour, vraiment cette authenticité dans l'accueil et dans l'hospitalité qui était assez particulier en Côte d'Ivoire. Du coup, quand il y avait des crises dans les pays de la sous-région et même voire dans d'autres pays d'Afrique francophone, c'est ici que les leaders venaient chercher refuge. Ceci étant dit, on ne s'était jamais soucié du fait que on se retrouverait un jour avec une crise qui créerait une psychose, une anxiété et qui nous permettrait de nous questionner vraiment sur cette question de l'oasis de paix. Et donc, pour faire de la longue histoire courte, donc vers la fin du mois d'août de cette année, il a commencé à avoir comme une prolifération de messages haineux et de vidéos incitant à la haine contre les personnes issues des communautés LGBT. Ça faut dire que ça a commencé par un fait banal, vraiment là, un fait banal, entre autres, c'était vraiment lié au fait qu'il y a une personne quelque peu influente dans la communauté, donc qui reçoit chez elle, qui héberge chez elle et qui prend en charge des adolescents, et puis il se trouve que une autre personne de la communauté qui entretient des relations avec l'une des personnes adolescentes donc va se faire épingler, et puis ça va créer une sorte de conflit, et des personnes qui vivent dans le même quartier que ces gens-là donc vont aller sur les réseaux sociaux et puis vont dire que elles sont témoins de ce qui se passe en ce moment et que cette personne qui héberge ces adolescents-là ne fait pas que juste les prendre en charge, mais plutôt a des rapports sexuels avec les adolescents. Donc, il y a une question de pédophilie qui est associée là-dedans. Mais sauf que la question de pédophilie va rester en stand-by. Parce que, étant donné que la personne en question qui héberge ces adolescents chez elle est connue là comme une personne appartenant aux communautés queer, et donc tout de suite, et puis qui est aussi efféminé, et donc tout de suite, il va avoir les gens qui ont lancé cette campagne anti-oubi, donc anti-queer, donc vont cibler dans un premier temps les hommes gays qui sont très efféminés, et puis par la suite, les personnes trans, surtout les femmes trans, et après, la crise va s'élargir comme à toute la communauté queer.
Mm-hmm. Oui, je t'interromps, mais il y a quand même d'autres groupes qui sont derrière ça, qui appuient et qui mettent de l'avant ces gens-là, puis on peut les nommer. Il y a des groupes religieux qui viennent des États-Unis qui sont derrière ça.
Oui, mais ça, on le saura beaucoup plus tard. On le saura beaucoup plus tard quand on était avancé dans la crise. Mais n'empêche qu'il y avait des prémices. Il y avait des prémices dans le sens où cette année, il y a quand même eu une conférence internationale sur la famille, Et puis quand c'était la conférence était organisée par l'Église mormon en partenariat avec le ministère de la Famille en Côte d'Ivoire.
Et les
Et ce
Mormons,
qu'on
c'est
a
une église
connu, c'est
américaine, oui.
voilà. Et ce qu'on a connu, c'est que dans les autres pays, que ce soit de la sous-région ou en Afrique de façon générale, comme ça a été le cas avec l'Ouganda, quand cette conférence est organisée, il s'ensuit vraiment une criminalisation des relations entre personnes de même sexe dans le pays en question. Donc pour nous, ce n'était pas anodin. On s'est dit que ben, s'il y a une telle conférence, il faut qu'on soit sur nos gardes. Sauf que on n'avait pas l'expérience de mobilisation. Qu'est-ce qu'il fallait, comment fallait nous préparer des choses comme ça. Donc bref, de fil en aiguille, la conférence était censée être tenue au mois de mars. Et quand ils ont appris que ben, il y avait des groupes féministes, il y avait aussi la communauté queer qui était en train de se préparer. Donc, ils ont brouillé les pistes en reportant la conférence au mois de mai, disons fin juin. Et donc, finalement, la conférence a lieu. Sauf que, une fois encore, dans l'élan de brouiller les pistes, rien sur les questions LGBT n'est mentionné dans la conférence. Alors là, rien du tout. Donc, nous, on se dit, ben, OK, c'est une conférence sur la famille de façon générale, mais sauf que, en analysant les faits, on s'est rendu compte que quand ils parlent de famille, évidemment, le sens de la famille ici n'est pas élargi et qui ne prend pas en compte les personnes, les couples de relations entre personnes de même sexe. Donc, la famille à laquelle ils faisaient allusion était la famille restreinte, disons vraiment hétéronormative. Et ça vraiment comme ça nous a éveillés. Qui est derrière ces mouvements-là? D'où est-ce qu'ils sortent leur financement? Parce qu'ils ont quand même de gros financements.
Oui, on
Et
parle
puis
de
là, c'est là qu'on
54
a
millions
découvert.
depuis 2007, là, oui.
Exactement. Et donc là, on a découvert qu'effectivement, il y avait des leaders religieux, il y avait des leaders communautaires. Et puis bon, évidemment, c'était beaucoup plus organisé par ces évangéliques aux États-Unis. Et puis, ben, évidemment, l'Église mormon.
Je vous souhaite un bon succès, Carlos, avec tout ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.